CDRC, le podcast.
Bonjour, je suis Florian Lavenu, manager général de la Convention des réseaux commerciaux. La CDRC est le premier événement hybride dédié aux équipes dirigeantes des enseignes. Alors si vous faites partie d'un réseau commercial et que vous travaillez dans le service développement, RH, juridique, financier, marketing ou immobilier, téléchargez dès maintenant votre pass CDRC sur le site cdrc.paris. Le pass vous donne accès à la plateforme digitale CDRC Connect et à une entrée à l'événement physique qui aura lieu le 17 juin 2021 à Paris.
CDRC, le podcast.
Écoutez le commerce s'organiser.
Et pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Cruge, directeur fondateur de la société Territoire et Marketing. Bonjour Laurent.
Bonjour Florian, merci pour m'accueillir.
Avec grand plaisir. Alors Laurent, nous allons commencer par présenter, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Territoire et Marketing, c'est plus de 20 ans d'existence, 300 références clients actives, une expertise unique dans le domaine du géomarketing. Vous avez créé la société en 1997, elle est devenue filiale de Cyril Group en 2019. Votre métier, vous m'arrêtez si je me trompe pas, c'est donc d'accompagner avec de la data ou de l'analyse de data aussi bien les dirigeants des enseignes que les commerçants du réseau dans leur stratégie d'implantation, mais également dans la vie du point de vente au quotidien, c'est-à-dire.
Je l'aurais pas mieux dit. Alors, on travaille depuis le début de Territoire et Marketing sur l'accompagnement des candidats franchisés. C'était le premier métier et on le fait au travers de l'étude de marché d'implantation avec prévision de chiffre d'affaires. Et puis très naturellement, pour bien prévoir les chiffres d'affaires, pour bien comprendre les réseaux, on s'est approché des réseaux. On a des prestations qui concernent les uns et les autres. Le réseau devant principalement s'intéresser à son plan de développement, c'est-à-dire combien d'unités il doit ouvrir dans les 3-5 années à venir. Dans quel ordre? On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Et puis après, on a tout un ensemble de prestations aussi qui se sont développées au fil du temps sur l'animation de réseau, c'est-à-dire après ouverture de points de vente, et qui vont jusqu'à permettre, grâce à nos outils, à des candidats à des franchisés, pour le coup, à des partenaires en place, à des magasins en place, ou des agences, à communiquer sur une zone via des campagnes SMS, des campagnes emailing, ou des campagnes Google géolocalisées, Facebook, Instagram, enfin, et ainsi de suite.
Ouais, donc un accompagnement en amont, savoir où je m'implante, où je me crée. Et comment ensuite je fais vivre mon point de vente et j'attire des clients. Aujourd'hui, votre relation par rapport aux enseignes, comment elle s'est développée avant qu'on revienne sur la création d'ailleurs du cabinet. Mais quand aujourd'hui, vous allez d'abord plutôt voir les têtes de réseau, c'est plutôt via les franchisés, les futurs franchisés que ça remonte. Comment est-ce que ça s'organise?
On a une relation que je trouve assez unique en fait dans le monde du commerce associé, dans le monde de la franchise, dans le monde du partenariat, qui est en fait plutôt à la rencontre des enseignes et de leur proposer autant de les accompagner elles que d'accompagner les candidats. Donc on est à la fois dans une relation d'intimité forte, de proximité forte avec le réseau, et en même temps on garde, parce qu'on accompagne les candidats franchisés, donc qui doivent par rapport au réseau garder une certaine forme de distance, le réseau doit aussi ne pas piloter les décisions du candidat franchisé avant l'ouverture, donc du coup ça nous permet à nous aussi d'être à distance. Donc à la fois on est très proche des réseaux parce que on a accès à leur stratégie d'implantation, leur stratégie marketing, leur chiffre d'affaires, leur rentabilité. Donc on les connaît parfaitement. Et en même temps, en tant que prestataire pour le candidat franchisé, on est à la bonne distance. Et voilà, ça c'est extrêmement, pour nous, c'est extrêmement riche. Mais on est presque dans la même relation, je pense. C'est assez similaire à celle que le cabinet d'expertise comptable et que le réseau d'expertise comptable a, autant en étant proche du réseau, que le cabinet est proche du candidat franchisé. Et on fait un métier qui est extrêmement lié, puisque nous, on prévoit souvent le chiffre d'affaires du candidat franchisé. Et ensuite, le cabinet d'expertise comptable va partir de ce chiffre d'affaires ou de la proposition que le franchisé va faire autour de ce chiffre d'affaires et ensuite décliner les charges.
Alors, je le disais en intro, le cabinet a été créé en 97 par vous-même.
C'est ça.
Comment, dans quel état d'esprit, dans quel contexte ça s'est créé, pardon, au Territoire et Marketing?
Je le dis en souriant, ça a été, c'est presque un accident, pas complètement, mais presque un accident. Il y a d'abord une inclinaison personnelle, un choix qui m'est propre d'un peu plus m'intéresser au commerce de détail que au commerce de grande distribution. En tout cas, il y a 20 ans, 22 ans, c'était le cas. Et puis, des jolis accidents de la vie, des jolies rencontres, un premier réseau qui livre des sandwichs dans l'entreprise le midi, et puis qui, au bout du 31e magasin, enfin, en ouvre 30, entre guillemets, sans problème, sans difficulté, puis le 31e, en ayant l'impression de reproduire exactement les mêmes recettes que pour les 30 précédents, 31e fonctionne pas. Accident, et personne vraiment comprend. Le franchisé comprend pas, et on est dans une situation compliquée, puisqu'on a un franchisé qui ne réussit pas. Et qui a investi ses économies. Et on a une tête de réseau qui, de bonne foi, a ouvert un 31e magasin sans comprendre pourquoi. Et là, forcément, y a une forme de panique, de stupeur, et on a été questionné sur ce sujet-là. Ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on a fait, ce qu'on a inventé, avec beaucoup d'aplomb, parce que j'étais pas sûr qu'à 22 ans, en faisant cette première étude, je maîtrisais complètement le sujet. Mais ce qu'on a fait avec beaucoup d'aplomb, finalement, 22 ans après, nous sert encore et font partie des prestations principales de territoire et marketing.
Alors, vous êtes dans le commerce depuis plus de 20 ans, commerce de détail. Comment il a évolué ce marché? Est-ce que le commerçant d'il y a 20 ans, ou le franchisé, appelons-le le commerçant, moi j'aime bien ce mot de commerçant, est-ce que c'est le même? Comment a évolué son métier? Alors, bien sûr, il y a le e-commerce, mais dans l'ensemble.
Non, mais effectivement, on sent bien à la fin de votre question que vous me tendez la perche de la réponse. Et oui, effectivement, j'aurais tendance à dire que le commerçant lui-même ou ses attentes ont assez peu évolué. Ce qui a bien évidemment bougé sont les techniques, les outils, les effets de mode également auxquels on se plie beaucoup. Je pense que ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait des secteurs d'activité très identifiés qui étaient vraiment dans des tunnels. Dans d'autres, ça s'appelle des domaines d'activité stratégique, ça s'appelle des segments de marché. C'était extrêmement identifié et les marchés les uns avec les autres étaient assez peu perméables. Maintenant, on se rend compte que quand on ouvre une boutique, je passais devant un commerce tout à l'heure qui est un boulanger, pâtissier, restaurateur. Donc, y a beaucoup, on va beaucoup aller sur le terrain des autres. Et d'ailleurs, le commerce, rien que par exemple le e-commerce, la logistique du e-commerce et les colis font que dans des magasins de restauration ou de prêt-à-porter, on fait du colisage pour d'autres. Donc, il y a vraiment une perméabilité qui s'est constituée. Et si peut-être le commerçant a changé en un point, c'est là-dessus. Il est à la fois, il doit être un grand spécialiste du domaine d'activité de l'enseigne qu'il a choisi. Et en même temps, il doit être capable d'aller sur d'autres territoires, on va dire, sur d'autres terrains de produits, d'offres et de services. Et c'est ça qui peut avoir changé, on va dire, en 20 ans. Maintenant, c'est intéressant de voir à la fois ces phénomènes de modernité et également de voir au même moment qu'on revient sur des commerces très traditionnels, donc dans lesquels on va retrouver des commerçants qui finalement vont se spécialiser alors que la tendance naturelle, donc c'est rigolo ces effets d'accordéon, ces effets de serpent en fait de l'histoire économique.
Ouais, on c'est a ça toujours l'impression de revenir à un moment donné sur les mêmes modes entre guillemets d'il y a un certain nombre d'années qui reviennent au goût du jour puis ça repartira. Enfin, c'est, je sais pas comment vous l'analysez.
C'est ça. Il y a une vraie nuance à exprimer qui est presque philosophique, qui dépasse le monde du commerce, entre la réelle innovation au sens ça n'existait vraiment pas avant et finalement cet éternel recommencement sous des formes différentes, sous des habits différents, mais c'est finalement la même chose qui à travers les siècles se propage.
Alors, parlons de la crise. Elle a justement bousculé les habitudes, les modes. Elle a bousculé les enseignes à différents niveaux, selon les secteurs d'activité. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. On parle beaucoup de ceux qui s'en sortent moins bien, mais il y en a quand même qui s'en sont bien sortis. Est-ce que vous pensez qu'on a passé le plus dur de la crise pour le commerce?
Alors, je pense qu'on en est à 9 mois de crise sanitaire. On est aujourd'hui, et c'est normal, focalisé sur déjà l'issue de cette première épidémie, en fait, cette première pandémie et de la nature et des conséquences, en fait, de ce que ce type de virus qui est de nature grippe, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais qui ressemble à une grippe. Il y a des gens qui vont s'étrangler quand je vais dire ça, mais qui fait que du coup, on se protège comme si on devait se protéger d'une grippe normale qu'on veut pas attraper. Le vaccin en moins, puisque le vaccin est juste en train d'arriver.
Ouais.
Voilà. Mais donc ça, oui, je pense que ce qui va rester de la crise, c'est le fait que on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus prévoir. Alors c'est dommage pour quelqu'un comme moi qui fait des études de marché, je dois pourtant continuer à prévoir et je vais continuer à prévoir, mais c'est vrai qu'on est plongé dans quelque chose qui était imprévisible. Et donc, du coup, la dimension sanitaire s'est fortement invitée dans le commerce. Je ne sais pas si ça va être une tendance permanente, une tendance de fond, mais en tout cas, avant qu'il n'y ait plus de stock de masques ou de stock de gel hydroalcoolique ou de marquage au sol, il va s'écouler un grand nombre d'années, parce que peut-être que le vaccin va régler la question de ce virus. On voit déjà que la souche est en train de muter, on voit déjà que le vaccin ne suffira pas en une fois, il faudra le prendre plusieurs fois. C'est une évidence, en tout cas, pas une certitude. C'est pour moi une évidence qu'on s'inscrit dans un usage de barrières sanitaires qui vont devenir absolument naturelles. Ce qui m'a fait sourire, parce que j'ai dû faire partie de ces gens qui voyaient débarquer des quarts de touristes avec des masques, en comprenant pas pourquoi chez nous ils avaient besoin de mettre des masques. Et en fait, quand on ira chez eux ou quand on restera chez nous, on va se mettre à utiliser ces masques et ça va nous paraître finalement assez courant, même si il va rester quelque chose de tous ces problèmes psychologiques, sociaux que ça engendre, parce que on n'est pas habitué à ne pas voir nos visages, on n'est pas habitué à ne pas voir nos expressions, et tout ce qui filtre en fait ces éléments là peuvent avoir un impact sur le commerce, pas forcément un impact négatif, mais vont avoir un impact sur le commerce, ça j'en suis convaincu.
Il y a un des premiers enseignements, en tout cas, qu'on va pouvoir tirer, je pense, de cette première phase, cette première période de la crise sanitaire, c'est qu'on a senti que le commerce en réseau avait mieux résisté. Ça, c'est les chiffres qui le disent, hein, c'est pas moi. Nous, ça fait longtemps qu'on défend justement ce type de commerce qui est de plutôt privilégier d'entreprendre dans un réseau plutôt que tout seul. Est-ce qu'il fallait traverser cette crise pour qu'on se rende compte de l'importance en fait d'un réseau, de la force d'un réseau?
Non. Non, il ne fallait pas ça pour que les franchisés et les partenaires se rendent compte. Il est probable que dans certains réseaux, ceux qui pouvaient douter de la réelle efficacité d'un franchiseur, d'une tête de réseau, là, se sont rendus compte de l'extrême nécessité qu'ils avaient besoin et de la chance qu'ils avaient par rapport aux indépendants de pouvoir se retourner vers un pair qui devait analyser, savoir, prendre des décisions. Alors, je vais même être assez franc. Hein, peut-être que les têtes de réseau ont d'abord pris des décisions pour eux-mêmes, pour leur propre magasin, leur propre succursale, en se disant déjà, je vais essayer de me sauver moi-même et je verrai si j'arrive à sauver les autres. Mais finalement, c'est là où le système est intéressant, c'est qu'en ayant cherché à se sauver, c'est-à-dire en commençant par penser à soi-même, finalement, la tête de réseau, s'occupant de ses magasins, s'est aussi occupée des magasins, de ses propres magasins, s'est aussi occupée de ses magasins partenaires. Et donc finalement, je pense que ce qui est assez intéressant et assez nouveau, c'est qu'on a toujours prôné la collectivité ultime dans le monde de la franchise ou du commerce associé ou du partenariat, encore une fois, au sens large. Mais finalement, là, c'est, je pense, l'individualisme ou les individualités, peut-être, qui ont bénéficié au plus grand nombre. Et ce qui est certain, c'est que certains franchisés qui pouvaient douter de l'usage de leurs redevances, de redevances publicitaires et encore plus de leurs royalties et de l'évolution du savoir-faire du franchiseur, par exemple, encore une fois, ou de ses process, en tout cas, là, on peut se rendre compte que, en tout cas, quand on en a besoin, la tête de réseau est là. Et donc, je pense que c'est l'année ou jamais où on s'est rendu compte qu'un euro reversé au franchiseur avait une utilité.
Et justement, dans cette réponse qui a été apportée par les réseaux, alors là, je partage avec vous, mais on a tous été à peu près surpris par la résilience des réseaux commerciaux. Est-ce que vous-même, vous avez été, vous qui êtes au contact des clients, de vos clients, est-ce que vous-même, vous avez été surpris par ça ou c'était quelque chose que vous avez l'habitude de voir en temps normal, hors crise?
En fait, c'est permanent. Là où je veux bien admettre que la crise a eu un effet, c'est qu'elle est de telle ampleur que les réponses ont été d'une ampleur en écho, en fait. Donc, c'est ça qui nous a fait voir à quel point le franchiseur a pu apporter des choses. Et puis, il a fallu le faire vite et le faire sans savoir. Et puis, certaines choses ont dû être jetées à la poubelle et après ressorties des poubelles quand on croyait être sorti, par exemple, de la première vague. Donc, c'est peut-être que c'est la rapidité qui est une surprise. C'est-à-dire, c'est la réactivité de réseaux petits et donc avec moins de moyens, ou très gros, donc plus lent à bouger. C'est ça qui a été étonnant. C'est-à-dire que la vivacité n'a pas été l'apanage des petits et la mise à disposition de moyens n'a pas été l'apanage des grands non plus. Ça, pour le coup, ça peut être une surprise. Mais c'était assez logique, c'est assez évident et c'est dans la nature courante des choses. Peut-être que le franchiseur, là, la tête de réseau, a eu un usage bien plus avisé, bien plus pointu, bien plus pertinent de l'euro investi.
Ouais.
Mais c'est normal, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand, entre guillemets, tout va bien, même si beaucoup de secteurs étaient déjà bousculés, hein, mais quand, entre guillemets, tout va bien et qu'on est dans la logique courante des choses, bah oui, on applique des recettes classiques qu'on a le temps de regarder, d'étudier chez les confrères. Voilà. Là, ce qui était intéressant, c'était qu'on était dans un baquet de Formule 1 à 300 km/h, au bout, il y a un virage, et comment faire pour que le virage se passe bien, freiner et accélérer en même temps. Ça, pour le coup, beaucoup de réseaux se sont dégraissés et révélés bien plus agiles que ce qu'on pouvait imaginer.
Alors, il y a un autre sujet, moi, qui m'intéresse énormément, et je pense que vous aussi, mais un enseignement également de cette crise, ou en tout cas, on l'a vu, surtout de par les clients, c'est le retour un peu du centre-ville, de la proximité. On a senti que... Ben c'est un peu logique, hein, quand on ne peut pas aller loin, on va en bas de chez soi et on essaye de trouver le maximum de choses. Mais on sent vraiment qu'il peut y avoir une orientation, et même au niveau des réseaux, qui vont peut-être chercher à s'implanter aujourd'hui dans le centre-ville. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado?
Oui, on aimerait tous que ce soit le nouvel Eldorado, mais pas forcément au détriment des zones de périphérie. Ce qu'on peut reprocher sur 40 ans de politique de la ville et 40 ans de politique de la périphérie, c'est ce qui est sans doute très français, mais on ne doit pas être les seuls non plus, mais c'est le côté c'est le côté uniforme des décisions qui ont été prises. Il y a une loi Royer qui était là pour encadrer pour limiter même le nombre de mètres carrés de périphérie et sauver le centre-ville, qui finalement était une loi qui a organisé la désertion des centres-villes. Bon, c'est ce côté systématique. Un maire fait un centre commercial à l'extérieur, il faut que le maire d'à côté ait le sien aussi. Mmh. Ça, c'est, je pointe personne du doigt, mais je caricature la démarche, mais c'est cette tendance systématique qui est discutable chez nous. Là, je pense qu'on va arriver sur un rééquilibrage. Et c'est ça, je pense, en tout cas pour moi, on va redevenir un peu raisonnable. On va d'ailleurs voir beaucoup de concepts qui sont de l'ordre, de la raison, de la rationalisation. On entend beaucoup parler des produits d'occasion.
Oui.
Et de la seconde main. Alors, ce qui est intéressant dans la seconde main, c'est que maintenant, elle est entretenue par le réseau dont le produit d'origine est issu. C'est-à-dire que la marque organise elle-même la seconde main de ses propres produits. Donc, d'une certaine manière, elle les rachète, puis elle les remet en vente sur son site et dans ses magasins. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve relativement intéressant, relativement positif, qui s'inscrit finalement dans toute cette jeune génération qu'on affuble d'étiquettes avec les millennials, ce genre de choses. Finalement, c'est pas eux qui l'auront mis en place, mais on rentre quand même dans cette grande tendance. Donc, le centre-ville là-dedans, encore une fois, on dépasse le commerce simplement, on touche presque à la philosophie, en tout cas à la politique de la ville. Et le centre-ville redevient raisonnable. Alors, il nécessite toujours d'être organisé en termes de flux de véhicules, de flux multimodal, donc de piétons, de bus, de tramway, de parking, voilà. Mais le centre-ville est une alternative raisonnable à la... monstrueux, éléphantesque des zones périphériques. Voilà, et je souris parce qu'il y avait une enseigne qui s'appelait Mammouth, fut un temps, et qui était une enseigne de périphérie, une grande surface alimentaire de périphérie. Et c'était peut-être pas complètement hasard si on avait des mammouths,
ouais,
à l'extérieur. Et voilà, ça, et pour reprendre cette image et ce terme-là, ça appartient à un autre temps. Donc, on va retrouver des rééquilibrages. Et je pense que, les maires, les municipalités, les associations de communes et de commerçants, ce qu'on appelait les agglomérations, les communautés de communes, vont réfléchir à un partage plus juste de l'espace et éviter d'engorger un site ou un autre site.
Mais ça veut dire aussi que les enseignes de leur côté doivent se préparer à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des concepts typiquement qui ne sont pas applicables au centre-ville. Je ne sais pas si
Je ne sais pas. Les enseignes, peut-être par schizophrénie... Pardon de vous avoir coupé, Florian.
Non, mais...
Les enseignes, peut-être par schizophrénie, par peur, ou en tout cas pour faire feu de tout bois, tordent le cou à leur sacro-saint concept. Et vous avez des magasins qui s'étendent sur des surfaces importantes qui essayent de trouver des concepts de proximité. Mais à la fois pour le centre-ville, mais tout autant parce qu'en galerie marchande ou en retail park, l'espace coûte cher. Donc plus on peut rationaliser, alors c'est là où le digital peut avoir de l'intérêt, puisque finalement, prenons l'exemple d'une parfumerie, on n'est plus obligé d'avoir, comme il y a 30 ou 40 ans, les flacons dans toute leur taille, dans toute leur contenance. La gamme en entier, si en quelques heures, on peut livrer la gamme ou si on peut la commander, que le lendemain matin, elle est présente. Enfin, voilà. Donc c'est ça qu'on va voir arriver. C'est des concepts qui vont se tordre dans tous les sens, pour arriver sur des petites surfaces et des grandes surfaces. Moi, je m'attends plutôt à une distorsion, à un étirement des superficies pour le même concept. Puis on va aussi voir arriver alors ça existait déjà dans les shopping shops et dans les multimarques du même groupe qui se remettaient ensemble. Il y a une enseigne vous trouverez des exemples d'enseignes si vous voulez les citer, je vais pas le faire là. Mais donc voilà. Et je pense que un des grands apports va être le retour de la marque enseigne et son poids comme élément de réassurance. Et ça m'intéresse énormément, parce que ça va obliger les marques à capitaliser aussi sur ce qu'elles sont, ce qu'on appelle dans nos métiers le fond de marque, l'identité de la marque. Il y a un grand chercheur qui s'appelle Jean-Noël Capferrer, qui a beaucoup écrit là-dessus, beaucoup dans les années 80-90, qu'on a un peu oublié. Et ben, je pense que Capferrer reviendra sur le devant de la scène, parce que la marque va reprendre un peu plus de poids, sachant que communiquer sur la marque, ou en tout cas, c'était quelque chose qui appartenait plutôt aux années Frim, aux années 80, aux années des Yuppies, des Golden Boy. Là, on va retrouver la marque comme sécurité, comme élément de confiance et comme élément d'échange et de communication avec le consommateur. Ça, je pense que c'est ça va être à mon sens, un des grands paris à faire sur les conséquences profondes de la crise actuelle, en attendant la prochaine.
Alors, dernier thème de notre entretien. Alors, je sais, vous l'avez dit aussi au début, que vous accompagnez beaucoup de candidats à la franchise. Mm-hmm. Plus globalement, même des commerçants au moment de leur lancement. On parle d'un afflux de candidats pour les réseaux en 2021. Alors, ça serait dû à la crise, hein, bien entendu, avec beaucoup de plans sociaux. Mais 2021, donc, serait une année assez forte pour intégrer les réseaux. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer ?
Oui, enfin... Bien sûr, il n'y a pas meilleur moment pour se lancer, et ça implique simplement de s'équiper de conseils et d'études plus encore que jamais. C'est-à-dire que je dirais que les codes classiques de la ville que vous connaissiez, de la zone que vous connaissiez, de là où vous avez grandi ou travaillé, voilà, tout ça, ça n'existe plus, ça a été balayé d'un revers de la main depuis le 17 mars 2020. Donc il faut se faire aider, se faire accompagner encore plus que jamais. Il va y avoir, et on le sait dans notre entourage tous les uns les autres, il va y avoir ce qu'on appelle une casse sociale. Elle est encore bien orchestrée, si je peux dire, par les entreprises qui passent par des plans assez organisés, par des ruptures conventionnelles par exemple. Donc on va avoir des candidats qui vont arriver avec des apports financiers leur permettant de regarder pluralité de projets. Et ça va faire qu'on va avoir en tout cas pendant un temps un afflux de candidats. Si on rajoute à ça certains commerçants anciens, fatigués, lassés de la dernière grosse vague, du dernier gros cyclone qu'ils viennent de se prendre dans la figure en 2020 et qui voilà, qui se disent c'est bon, j'ai fait mon temps, ça fait 40 ans que je suis commerçant, je plie boutique, on va retrouver des locaux disponibles, plus tout ce travail qui est fait par les foncières et par tout le monde sur le magasin éphémère, il va y avoir des emplacements disponibles, il va y avoir, alors je parie pas si on va avoir des emplacements à la baisse ou à la hausse en termes de coûts d'accès, mais il va y avoir une bourse très dynamique sur l'emplacement commercial. Vous y rajoutez des salariés inquiets et qui se disent qu'à la prochaine vague, s'ils tiennent celle-là, ils ne tiendront pas la deuxième. Donc, ils se lancent. Voilà. Alors, le contre-coup, c'est qu'on va avoir des gens qui vont se révéler, qui finalement vont se rendre compte que commerçant est un beau métier et qu'ils le font avec passion et que ça les amuse. Donc, ils vont découvrir des choses qui vont leur permettre, après ce choix peut-être un peu forcé, de tenir. Puis, on va avoir ceux qui, au contraire, vont en avoir rêvé, auront fait ça un peu comme une bouée, et on va se retrouver avec des situations un peu, pardon de le dire, un peu radeau de la méduse, mais enfin moins heureuse. Bon voilà, c'est un peu, je crois que 2023, pour nous amener à ce qui pourrait paraître loin, mais ce qui est très tôt, voilà, 2023 va être une année, il faudra en 2023 se rappeler de 2020 et de 2021.
Eh ben écoutez, on va suivre cela, Laurent. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Laurent, que on aura le plaisir de vous retrouver sur la plateforme digitale CDRC Connect dès le mois de janvier.
Oui.
En mars, pour une matinée dédiée au géomarketing, et on parlera donc de cette importance de bien accompagner les futurs franchisés pour les réseaux, hein, sur l'implantation. Et bien évidemment, on vous retrouvera en chair et en os, je l'espère en tout cas, le 17 juin 2021 au Palais Brongniart à Paris. Merci beaucoup, Laurent.
Ce sera un très grand événement et merci Florian pour cet accueil et cette invitation. À bientôt.
CDRC, le podcast.
Écoutez le commerce s'organiser.